Chapitre 10. Bien qu'il eût songé depuis longtemps à le faire, il n'y avait que 6 mois que Jean-Noël avait renoué avec les Wurzel. Il avait appris alors que ceux-ci s'étaient brouillés avec la famille Villemur. Si cela l'avait déçu, car il avait espéré que les deux familles seraient plus amies qu'avant, ce qui, si Annie avait appris qu'il fréquentait de nouveau Odile, lui eût épargné de se l'entendre reprocher, il n'en avait été que mieux accueilli. N'était-il pas, lui aussi, une victime de l'orgueil des Villemur? Depuis, il était retourné presque chaque semaine chez les Wurzel, où on avait fini par le traiter un peu comme un membre de la famille. Des relations de plus en plus cordiales s'étaient établies entre Odile et lui. Il lui avait fait des confidences, si bien qu'à présent, elle n'ignorait rien de sa vie. C'est pourquoi, le lendemain de la visite de sa mère, il se rendit, aussitôt après avoir déjeuné dans un restaurant voisin de l'étude, boulevard du Montparnasse. La famille Wurzel se trouvait encore dans la salle à manger quand il fut introduit. Autour de la table, il y avait M. Wurzel, sa jeune femme, très digne, un oncle, Odile et ses deux frères, Simon et Maurice. Tous reçurent Jean-Noël avec cette satisfaction que donne une visite faite au bon moment. Il devint un point de mire. On lui demanda s'il avait déjeuné. Il répondit affirmativement. M. Wurzel, qui croyait toujours qu'on avait de fausses hontes, insista cependant pour qu'on ajoutât un couvert. Jean-Noël laissa faire, mais quand un domestique lui présenta un plat, il ne daigna même plus refuser. « Eh bien, vous prendrez du café et du kirsch de chez nous, » dit M. Wurzel. Lorsque tout le monde se leva, Odile fit signe à Jean-Noël de la suivre. Il la rejoignit dans un petit salon. Elle referma elle-même la porte, cependant qu'il allumait une cigarette. « Alors, » dit-il, comme si, dans un instant, elle allait se trouver dans ses bras. Il se voyait comme dans une glace. Le fait d'avoir quitté la famille Wurzel sans que personne eût trouvé cela anormal et sans qu'il eût eu besoin d'en donner la raison, d'avoir traversé seul une partie de l'appartement, un peu comme des coulisses, puis d'être entré dans ce boudoir Louis XV, ensoleillé, avait accru le sentiment qu'il avait d'être aimé. « Qu'est-il arrivé ?» demanda Odile, qui avait deviné à certains regards que quelque chose s'était passé. Jean-Noël ne répondit pas. Il avait déjà mis Mademoiselle Wurzel au courant de son désir de faire revenir les restes de son père. Il l'avait fait avec une fierté inimaginable, un tel acte impliquant que son père avait été un personnage d'une importance exceptionnelle. Aussi, au moment de dire que cette pieuse pensée était devenue une arme contre lui, ainsi qu'un homme politique à qui ses adversaires reprocheraient une intervention généreuse, prenait-il un temps, la hâte de se défendre étant l'indice d'une conscience troublée. Il y a qu'elle a tout raconté à ma mère, dit-il en évitant, comme il le faisait chaque fois qu'il le pouvait, de prononcer le nom de Madame Mourier. Odile prit un air navré. Dans le fond, elle n'attachait aucune importance à cette translation qu'elle considérait comme une lubie, mais elle était femme avant tout, et dès qu'elle supposait qu'un homme, fût-il un étranger, avait quelque chose à cœur, elle ne faisait jamais la moindre objection. Il y avait longtemps qu'elle avait remarqué que Jean-Noël tendait à s'en croire, à glorifier cette même famille qui n'avait pour lui que de l'indifférence. Elle avait remarqué également que les mobiles qui le poussaient étaient d'un ordre inférieur. Elle ne l'en avait pas moins toujours approuvé. « Et je me demande à présent ce que je dois faire, » continua Jean-Noël. « Faut-il que je raconte tout à Annie ou que je le lui cache ? Si je me tais et qu'elle apprenne mon projet, elle m'en voudra d'avoir pris une initiative qu'elle se proposait peut-être de prendre et elle aura raison. Mais si, pour prévenir une indiscrétion, je lui avoue la vérité, je risque de lui faire de la peine inutilement, car il se peut très bien que ma mère n'ait pas l'intention que je lui prête de me nuire. » Jean-Noël savait qu'il ne ferait aucune peine à Annie, mais que tout simplement il la mettrait en colère. De cela, il se gardait bien de parler, car ce à quoi il tenait avant tout, c'était qu'Odile, comme son entourage à lui, crut que Madame Etzlinger souffrait de ses incartades. « C'est très délicat, » dit Mademoiselle Wurzel. « Il vaudrait quand même mieux, je crois, que vous en parliez à votre belle-mère. »« Avez-vous raison ? Je l'ignore. » « Attendez-moi un instant. » Elle quitta la pièce. Elle revint peu après avec son frère Maurice. C'était un jeune homme qui attachait une grande importance à ses complets, à ses cravates, enfin à tout ce qui flattait les yeux. Depuis qu'Odile était devenue la confidente de Jean-Noël, depuis surtout qu'elle envisageait de se marier avec lui, elle éprouvait le besoin de trouver chez les siens un appui, une approbation. Mais ce n'était qu'à Maurice, dont la complaisance et la douceur lui inspiraient confiance, qu'elle avait osé faire part de son projet. Il était son cadet, et si, dans la vie quotidienne, il ne se conduisait pas comme tel, il le redevenait dès qu'un événement inhabituel surgissait. Pendant une heure, tous trois cherchèrent dans la confusion quelle conduite il convenait à Jean-Noël d'adopter. Finalement, il fut entendu que celui-ci irait voir sa belle-mère et lui parlerait avec franchise. « Mais comment se fait-il que vous ayez songé à faire revenir les restes de votre père ?» demanda Maurice au moment où Jean-Noël prenait congé. Dès le début, il avait voulu poser cette question, mais ce n'avait été que lorsque la part qu'il avait prise dans la discussion pouvait justifier sa curiosité, qu'il avait osé le faire. « C'est une chose tout à fait normale, » répondit Jean-Noël avec étonnement. En vérité, il ne savait pas exactement pourquoi il avait ce désir. Ce qu'il savait, c'était que sa joie eût été grande si, dans un an, dans deux ans, Annie, de passage à Davos, n'eût pas retrouvé la tombe de son mari. Cette scène, il l'avait imaginée de nombreuses fois. Sa belle-mère arrivait, les bras chargés de fleurs. Elle cherchait la tombe. Ne la trouvant pas, elle interrogeait le gardien. Il réfléchissait. Soudain, il se souvenait qu'un jeune homme seul, grand autant qu'il pouvait s'en souvenir, semblant désabusé, avait fait enlever le corps. Et c'était uniquement pour cette scène qui pouvait très bien, si Annie n'avait pas l'occasion de faire le voyage à Davos, ne pas avoir lieu, que Jean-Noël avait entrepris toutes les démarches relatives à un transfert. « Vous ne me répondez pas, » observa Maurice. Madame Mourier, lorsque Jean-Noël l'avait mise au courant de son intention, avait d'abord pensé que c'était un mensonge, comme il n'hésitait pas à en faire dès qu'il s'agissait d'embellir sa famille ou les rapports qu'il avait avec celle-ci. Mais quand elle avait compris, au sentiment du devoir accompli qui émanait de lui, à la flamme qui sortait de ses yeux, qu'il se prenait au sérieux, elle avait estimé que le mieux était de l'approuver. Ce qu'elle avait fait, toutes les personnes à qui Jean-Noël par la suite annonça son projet le firent également, si bien qu'il prit l'habitude de se considérer un peu comme le défenseur d'une noble cause. « Je le sais bien, » répliqua-t-il en jetant un regard méprisant sur Maurice Wurzel. Le lendemain après-midi, comme le lui avait conseillé Odile, Jean-Noël se rendit chez Annie. Il y avait une quinzaine de jours, il avait déjà fait une visite à sa belle-mère, à l'occasion des fêtes, pour lui souhaiter la bonne année. « Tu as à me parler ?» lui avait demandé Annie. Au vœu de Jean-Noël, elle avait répondu froidement. Pendant la guerre, elle avait admiré les jeunes hommes qui donnaient le meilleur d'eux-mêmes pour la patrie. Elle se faisait une idée romanesque de la vie, du travail, de l'avenir, de l'ambition. Un boulanger, à ses yeux comme à ceux d'un enfant, était une sorte de diable, mais blanc, qui travaille pendant que tout le monde dort. Aussi ne comprenait-elle pas qu'un homme, au commencement de sa vie, destiné par conséquent à lutter pour s'imposer, pût se conformer à des usages ne préoccupant que les oisifs. Elle s'y conformait, elle, mais elle avait une excuse. Ce n'était pas sa faute si elle avait été élevée dans le respect de tous ses usages. Si elle les trouvait ridicules, elle n'en était pas moins tenue de les observer. Mais Jean-Noël, qui, lui, avait été à la guerre, qui avait eu la chance de vivre au milieu de troubles et de difficultés que le monde ne reverrait sans doute jamais, comme ont vécu tous les hommes qui ont fait parler d'eux, où allait-il donc chercher cette petitesse qu'on ne lui avait pourtant jamais inculquée ? Quand il arriva à avenue de Malakoff, un valet de chambre l'introduisit au salon, puis, une minute plus tard, vint le chercher pour le conduire dans la chambre d'Annie. Jean-Noël était ému, comme il l'était chaque fois qu'il se rendait chez les Villemur. N'était-il pas sa famille, celle au sein de laquelle il aurait tant aimé à vivre ? En pénétrant dans la chambre d'Annie, il ressentit un grand bien-être. C'était une pièce luxueuse, par les fenêtres de laquelle on apercevait les arbres de l'avenue du Bois comme s'élevant d'un parc. Des livres, des peintures lui donnaient cet aspect qu'il avait tant aimé dans l'atelier de Nice. Il y faisait une chaleur agréable. Au loin, juste au milieu, comme dans une perspective construite à cet effet, se trouvait le soleil, rouge et sans force, déjà prêt à disparaître. Jean-Noël était comme transporté dans un autre monde. Le soleil, qu'il n'avait même pas remarqué un quart d'heure avant, cette brume légère qui flottait sur Paris, c'était comme le décor d'un souvenir, et il était là, devant Annie, toute prête à sortir à la fin d'un après-midi d'hiver, coiffée d'une toque de vison. Elle avait dû écrire, car sur son bureau, il y avait une lettre commencée, et ce fameux porte-plume d'ivoire dont, à Nice, elle lui avait défendu de se servir. « Assieds-toi, Jean-Noël !» Il était de plus en plus embarrassé. Chaque fois qu'il allait chez sa belle-mère, il s'arrangeait pour avoir un prétexte, car il avait remarqué que rien ne déplaisait autant à Annie qu'une visite sans raison. Or, cette fois, elle ne paraissait pas tenir à connaître ce prétexte. « Sais-tu à qui je suis en train d'écrire ? » demanda-t-elle. « Non, je ne sais pas, » répondit-il lentement, de manière à profiter de cet accueil pour se ressaisir. « À notre ami Saglioni, » dit-elle gentiment, car elle aimait au fond Jean-Noël et il suffisait qu'il arrivât à un moment où elle s'occupait d'une chose qui était susceptible de l'intéresser, comme d'écrire à quelqu'un qu'il avait connu, pour que son affection se montrât. Ce jour-là, Jean-Noël eût pu ne pas avoir de raison d'être venu. Il fallait en conséquence qu'il se gardât d'en donner. Lorsque sa belle-mère était de bonne humeur, ne semblait-elle pas savoir qu'il n'y avait jamais eu de raison ? Un instant, il pensa ne rien dire afin de ne pas gâcher cette heureuse disposition, mais il lui apparut qu'il ne pourrait pas revenir avant une quinzaine de jours. C'était plus qu'il n'en fallait à Madame Mercier pour le devancer. Il valait donc mieux parler. Après tout, rien ne laissait prévoir qu'Annie prendrait mal le désir qu'il avait de faire transporter à Paris les restes de Jean Melchior. « J'ai quelque chose à t'annoncer, » dit Jean-Noël. Annie, pour ne pas être distraite, se parlait à elle-même en écrivant. « J'ai l'intention, » continua Jean-Noël, « de faire transporter à Paris les restes de mon pauvre père. Il avait toujours dit, si tu te souviens, qu'il voulait être enterré au cimetière Montparnasse. » Annie se redressa. Elle regarda Jean-Noël, d'abord avec surprise, puis avec colère. « Est-ce que tu es devenu fou ?»« C'est la ville qu'il a aimée le plus, » précisa Jean-Noël. Annie, cette fois, ne put se contenir. « Je le sais, mais cela ne m'explique pas que tu puisses avoir de pareilles idées. C'est à douter que tu aies toute ta raison. » « Je pensais bien faire, » répondit Jean-Noël avec naïveté. Cette excuse, autant qu'elle en était une, ne calma pas Madame Ettlinger. C'était certainement pour lui montrer qu'elle avait manqué à son devoir en retournant dans cette même famille qui avait tant détesté son mari que son beau-fils, sans la consulter, avait imaginé ce transfert, s'il avait imaginé, car elle n'était pas éloignée de croire qu'il n'avait cette intention qu'en parole. Lui faudrait-il donc lutter toute sa vie contre ce garçon ? Oh, elle ne regrettait pas de s'être mariée contre le gré de sa famille. Elle avait été heureuse. Les années qu'elle avait vécues à Nice demeuraient les plus belles de sa vie. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire 10 ans plus tard, ce bonheur, bien qu'il fût paré de la poésie du passé, lui apparaissait comme la conséquence d'une folie de jeunesse, belle et désintéressée, mais dont il valait mieux ne plus parler. « Mon cher ami, » dit-elle durement, « tu éprouves déjà assez de difficultés à faire ton chemin sans compliquer ta vie de cette manière. »« Tu as raison, » répondit Jean-Noël, qui, à présent, qu'il n'avait plus à redouter que sa belle-mère ne fût mise au courant d'un fait la touchant et qu'il lui avait caché, voulait changer de conversation. Annie se remit à écrire. Lorsqu'elle eut terminé sa lettre, comme si rien ne s'était passé, elle demanda à Jean-Noël s'il n'avait pas de timbre sur lui. Comme il eût désiré en avoir. Une dernière fois, elle se regarda dans une glace, puis elle dit en ouvrant la porte « Je m'en vais, Jean-Noël !» Dans l'entrée, comme son beau-fils ne semblait pas décidé à la quitter, elle lui tendit la main. « Au revoir, Jean-Noël, je ne descends pas tout de suite !» Sur le chemin du retour, Jean-Noël s'attendrit sur lui-même, ce qui ne lui arrivait pourtant jamais. il trouvait absolument injuste que chaque fois qu'il avait une pensée généreuse, sa belle-mère la lui reprochât. Il se tourna même vers son père comme vers un témoin. « Si vous étiez là, vous me comprendriez et vous me défendriez, » lui dit-il en se servant pour cette occasion du « vous ». À mesure qu'il se rapprochait de la rue Laugier, la colère l'envahissait. Annie refuserait-elle donc toujours de voir qu'il l'aimait, qu'elle inspirait chacun de ses actes, même quand ceux-ci paraissaient dirigés contre elle? C'était à croire qu'elle le haïssait. Pourtant, certains jours, n'était-elle pas adorable? Il descendait l'avenue MacMahon lorsque, pour la première fois, un mariage avec Odile Wurzel lui parut acceptable. S'il n'avait cherché à connaître personne depuis des années, c'était que, contre l'évidence, il avait toujours espéré qu'on lui permettrait un jour d'habiter avenue de Balakoff. S'il s'était résigné à travailler chez Maître Préfil, à vivre auprès d'une femme aussi bizarre que Madame Mourier, c'est qu'il avait eu la certitude qu'Annie, dès qu'elle le pourrait, le prendrait sous sa protection. Il ne pouvait plus ne pas voir qu'il se leurrait. Jamais Madame Ettlinger ne ferait quoi que ce fût pour lui. Cette constatation, qu'il eût dû faire il y avait longtemps, le plongea dans une profonde tristesse. Il se sentit seul, abandonné de tous. En arrivant rue Laugier, il trouva Madame Mourier en train de jouer du piano. « Je t'en prie, arrête-toi, ce n'est pas le moment. »« Au contraire, cela n'a jamais été autant le moment, » répondit Laure en faisant allusion aux embarras d'argent qu'elle affirmait inévitable si Jean-Noël continuait à subvenir à l'entretien de sa femme et de sa mère. Il ne répondit pas. Les paroles de cette femme, qui prétendait tenir à lui comme à la prunelle de ses yeux et qui, en même temps, ne cachait pas le désir qu'elle avait de se remarier avec un homme âgé mais riche, l'agaçait. « Je te demande de t'arrêter, » répéta-t-il. Elle fit claquer le couvercle du piano et vint se poster en face de Jean-Noël. « Tu ne vas pas m'empêcher de faire de la musique chez moi, je suppose, » dit-elle en sous-entendant que c'était elle qui, jusqu'à présent, avait fait marcher le ménage. C'était d'ailleurs vrai. Les appointements que recevait Jean-Noël, il les versait presque intégralement à sa femme. Quelquefois même, quand sa mère devenait trop menaçante, il demandait de l'argent à Madame Mourier. Selon son humeur, elle le lui donnait ou elle le lui refusait. Jean-Noël n'avait d'ailleurs jamais pu découvrir d'où elle tirait ses ressources. Elle prétendait que son mari lui faisait une pension, qu'il l'aimait toujours, qu'elle l'avait quitté parce qu'elle ne pouvait le supporter. Or, à d'autres moments, il apparaissait qu'il l'avait trompée, qu'il était parti, qu'elle ne savait même pas où il était. Si, comme le pensait Jean-Noël, Madame Mourier recevait tout simplement des subsides de sa mère, pourquoi s'en cachait-elle? Quel étrange amour-propre la poussait-il à dire qu'un homme à demi-mort de chagrin lui faisait régulièrement parvenir les sommes sur le chiffre desquelles elle avait toujours varié? « Ce n'est pas d'argent qu'il s'agit, » répondit Jean-Noël. « L'argent, je m'en moque. Je comprendrai que tu me dises cela plus tard, quand je serai remarié et que j'aurai deux ou trois amants généreux. » On ne pouvait pas manquer davantage de sens moral. Un homme aimé était à ses yeux une sorte de complice. Quand Jean-Noël, parfois, se plaignait qu'elle acceptait de l'argent de son mari, elle riait, comme s'il voulait se faire passer pour meilleur qu'il n'était. Il ne lui ferait plus ses reproches le jour où elle aurait trouvé ce fameux mari. Jean-Noël, alors, ne travaillerait plus. Elle pourvoirait à tous ses besoins. Il n'aurait qu'à l'attendre, en fumant ses cigarettes préférées, dans une garçonnière dont elle garderait la clé et d'où il n'aurait le droit de sortir qu'avec sa permission. « Pourquoi ? » demanda-t-il en élevant la voix. « As-tu raconté ce que je t'avais prié de garder pour toi ?»« Je ne supposais pas que tu puisses cacher quelque chose à ta mère, » dit-elle, en sachant très bien que la moindre allusion à Madame Mercier mettrait Jean-Noël hors de lui. Il ne sourcilla pas. Il fit quelques pas dans la pièce, s'assit près de la fenêtre. Alors, comme la veille, quand il s'était trouvé dans le petit salon d'Odile, il sortit de lui-même et se vit distinctement dans un petit appartement des ternes cette fois, cependant qu'une jolie femme, en peignoir à ramages, lui faisait une scène. Il eut conscience, non sans une fierté enfantine, qu'il était un centre. Il n'avait pas d'armes, il était vêtu, comme tous les hommes, d'un complet foncé, et cependant, partout, il y avait lutte à cause de lui. Peu après, la situation lui reparut sur son vrai jour. La vie qu'il menait ne pouvait plus durer. Madame Mourier devenait de plus en plus insupportable. Ce besoin continuel qu'elle avait de lui reprocher ce qu'il ne lui demandait pas et qu'elle lui accordait par générosité n'eût rien été s'il y avait entrevu une fin. Mais Annie ne venait-elle pas de lui montrer encore, il y avait une heure à peine, qu'elle n'avait pour lui aucun sentiment véritable? Si, jusqu'à présent, il avait subi Madame Mourier, c'était parce que, attendant toujours il ne savait quelle décision de sa belle-mère, il ne voulait pas compliquer davantage son existence. Il songea à Odile. Après tout, pourquoi ne se marierait-il pas avec elle? Ce ne fut que 3 semaines plus tard que Jean-Noël retourna boulevard de Montparnasse. Odile lui avait pourtant dit, le jour où il lui avait demandé conseil, « Venez tout de suite me raconter ce qui s'est passé. » Il ne l'avait pas fait. De ses démêlés avec Annie et Madame Mourier, il avait surtout retenu la conséquence, à savoir la pensée qu'il avait eue de se remarier. Or, depuis qu'il revoyait Odile régulièrement, il lui avait toujours laissé entendre qu'il ne l'épouserait pas à cause des Villemur. N'était-il pas, malgré tout, obligé de tenir compte de leur volonté? Il ne se désintéressait de lui qu'en apparence. Au fond, il l'aimait plus qu'il ne voulait le reconnaître. Aussi, au moment de changer d'attitude, avait-il voulu atténuer par un manque d'empressement ce qu'il considérait comme une capitulation. « Je vous avais demandé de me tenir au courant, » dit Odile dès qu'elle se trouva seule avec Jean-Noël. « Il ne s'est rien passé de particulier. C'est pourquoi... »« Vous pouviez quand même venir me voir ou me donner de vos nouvelles. » Elle prononça ces mots en souriant, comme si elle n'était pas rancunière. « C'est vrai. »« Et Madame Mourier, comment va-t-elle ? Pourquoi me demandez-vous cela ?» Qu'avez-vous, Jean-Noël? C'est vous qui êtes froissé? Continua Odile sans cesser de sourire. Je ne suis pas froissé. Elle s'approcha de lui, le regarda dans les yeux. Jean-Noël, il faut que vous divorciez, même si nous ne devons pas nous marier. Je vous dis cela uniquement dans votre intérêt. Vous êtes perdu si vous ne le faites pas.